Vous êtes un promeneur curieux, un amateur de cueillettes sauvages ou encore à la recherche d'ingrédients pour une cuisine créative, l'ouvrage de Marie-Claude Pomme est fait pour vous. Sauvage et comestible, herbes, fleurs et petites salades aux éditions Edisud répertorie plus de 150 plantes sauvages comestibles qui poussent en France.
Pour la cueillette, la première chose c'est déjà de bien identifier les plantes qu'on ramasse. D'être bien sûr de leur identité, de récolter les plantes dans des lieux qui ne sont pas pollués. Il faut repérer la biodiversité qui existe dans l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire qu'il est bon, avant de cueillir immédiatement une plante qu'on trouve, se promener un petit moment et repérer si cette plante existe déjà en plusieurs endroits avant de la couper, quoi. Parce qu'en fait, à présent, il y a à peu près 70% de la flore qui est en voie de disparition. Et personnellement, je le constate vraiment. Je me suis intéressée aux plantes depuis très très longtemps, hein, depuis mon enfance. Et c'est vrai que quand j'anime des sorties, j'ai beaucoup de mal à trouver des endroits qui réunissent une variété importante de plantes. Ben, dans notre région, c'est vrai qu'il y a énormément de terres cultivées. Donc, on remarque très très vite si les terres sont traitées avec des herbicides ou pas, parce qu'en fait, si la terre est à nu, c'est certain qu'il y a des herbicides. C'est l'absence de diversité, en fait, qui est un des marqueurs des traitements, hein.
Apprendre à reconnaître les plantes, connaître leur période de cueillette, vous nous y aidez, ce sont quelques éléments, mais vous en donnez bien plus dans votre ouvrage. Vous procédez par fiche thématique, en fait, par plante.
J'ai choisi, en fait, d'indiquer les plantes par ordre alphabétique et surtout de mettre des photos qui soient très parlantes des caractéristiques de ces plantes. J'aime bien aussi montrer la plante à différentes étapes de sa croissance, par exemple, pas forcément uniquement dans les parties qu'on va utiliser pour l'utiliser en salade, par exemple, quand elles sont jeunes, mais aussi qu'on puisse la reconnaître quand elle est en tige, quand elle est en fleur. Voilà, ça, si vous voulez, mon propos, c'est pas tant qu'on puisse se nourrir de la nature, bien que ce soit agréable et amusant, mais c'est de refaire connaissance avec les plantes de notre environnement. Je pense qu'on ne peut protéger la nature que si on la connaît et que si on l'aime. Ça fait une quinzaine d'années que je fais des sorties sur le terrain pour montrer les plantes aux personnes qui sont intéressées. Et j'ai remarqué que pour eux, tout est vert, tout est de l'herbe. Bon, la plupart des gens vivent dans les villes, hein. Les gens sont vraiment coupés de la nature. Je me suis intéressée depuis presque l'adolescence à toutes ces choses, à la diététique, à la culture biologique, aux médecines douces. Et la phytothérapie en particulier, c'était quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Parallèlement à ça, j'ai eu un grand intérêt pour l'étude des différentes traditions spirituelles. Pour moi, c'est un peu lié, l'amour de la nature et cette recherche. La phytothérapie, c'est une discipline très très intéressante, très efficace. Personnellement, je l'essaye très souvent pour moi-même, pour mes amis. Si on prend conscience de quel effet nous fait telle plante, etc., on peut vraiment remarquer que ça a un effet. C'est vraiment une médecine préventive excellente. Mm-hmm. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut être un petit peu attentif à ce qui se passe en nous.
Là où vous mettez l'accent plus dans votre ouvrage, c'est par rapport aux saveurs que peuvent avoir ces plantes. Est-ce qu'il y en a que vous affectionnez particulièrement, que vous utilisez souvent ?
Ah oui, il y a une plante que j'aime beaucoup, c'est le cumin des prés. C'est une plante qu'on trouve dans le Jura, qui est digestive, qui a surtout un goût extraordinaire, à la fois de menthe, d'anis, de cumin. C'est une plante qui est stimulante, qui est bonne pour l'estomac, qui aide les femmes qui allaitent à avoir plus de lait.
Cet ouvrage, Sauvage et comestible, c'était votre premier ouvrage, c'est bien ça ?
Oui.
Depuis, il y en a eu d'autres à votre actif ? C'est toujours autour des mêmes sujets ?
Quelqu'un m'a demandé de trouver une bonne idée sur les plantes médicinales. C'est mon second ouvrage. Et en fait, j'ai aussi proposé de faire un livre aussi sur les plantes sauvages et toxiques. Quand je fais des sorties botaniques, très très souvent, les gens me demandent « Ah, mais est-ce qu'on risque pas de s'empoisonner ? Comment reconnaître les plantes qui sont dangereuses ?» Donc, il m'a semblé que c'était un complément au premier livre.
Donc vous serez en dédicace donc pour ce premier ouvrage sauvage et comestible à la librairie du jardinier du domaine du Rayol, dimanche 28 février prochain, à l'issue d'un atelier dédié à la préparation de vin de plantes. Alors, qu'allez-vous proposer dimanche prochain ?
Alors, j'amène beaucoup de vin de plantes que j'ai fabriqué, la plupart avec des plantes sauvages en fait, du vin de prunelle, du vin de gentiane, enfin de la suze, enfin l'équivalent de la suze. du vin de bourgeon de cassis, de bourgeon de framboisier, des choses qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Je vais faire une conférence sur ce sujet, un petit exposé, pour parler un peu de l'historique aussi, de la place des vins médicinaux, un petit peu autrefois, qu'est-ce qu'on faisait. Maintenant, les vins de santé sont plutôt des vins apéritifs, digestifs, c'est plutôt des vins d'agrément, c'est pas tellement des vins de santé au sens propre. Et puis, on va faire des préparations, donc dans du vin blanc, dans du vin rouge, dans de l'alcool. Voilà, puis chacun repartira avec une petite fiole de préparation en cours qui pourra finaliser chez lui. Le domaine du Rayol m'invite régulièrement et anime aussi des ateliers sur d'autres sujets, hein, sur la phytothérapie, l'aromathérapie. C'est un endroit très agréable pour venir faire des stages.
Et des découvertes voilà. Tout au long de l'année.